Le débat africain. Alain Foucault.
Le sujet est tendance. Il nourrit les discours enflammés des politiques. On le sert à toutes les sauces, trop souvent pour montrer qu'on a conscience que c'est une urgence. Mais peut-on vraiment dire que la parité homme-femme est en marche ? Peut-on sérieusement croire que les discriminations, les violences, les injustices, les préjugés dont elles font l'objet est vraiment reculé ? Au-delà de certains médias et organisations qui parlent plus souvent d'elles de façon trop souvent misérabiliste et caricaturale, comment jugent-elles leurs conditions ? Bonjour à tous et bienvenue dans l'étape ivoirienne de la série des débats africains consacrée au leadership féminin en Afrique. Occasion d'écouter, cette fois-ci, les leaders, les chefs d'entreprise et responsables ivoiriennes parler d'elles-mêmes, de leur place dans la société, de leurs préoccupations, mais également de leurs espoirs. Plusieurs invités sur ce plateau du bord de la lagune ébriée. D'abord, Khadija Duparc, présidente et directrice générale de Sky Architects, cabinet qui gère d'importants projets dans la sous-région, tels que l'électrification rurale, la construction des sites de production, des hôpitaux, des bureaux, des logements sociaux et autres ouvrages. Elle travaille notamment en ce moment sur la construction du marché de gros et de détail dans la ville de Yopougon, qui représente la commune la plus dense d'Abidjan. Bonjour Khadija Duparc.
Bonjour Alain.
Merci d'être là. Notre seconde invitée est Viviane Bakayoko, directrice générale de Citibank Côte d'Ivoire. Elle dirige donc l'une des plus importantes institutions financières de la place. Bonjour Viviane Bakayoko.
Bonjour Monsieur Foucault.
Notre troisième invité, multitâche, particulièrement active dans son secteur, celui de la santé, est le docteur Linda Kabore, pharmacienne, présidente de Africa Santé Expo, une plateforme découverte d'informations, de formations, d'opportunités d'affaires et d'échanges sur le cadre réglementaire dans le domaine de la santé, pour le bien-être des populations. Marraine des tradis praticiens de Côte d'Ivoire, présidente du Lions Club Abidjan Océan, activité associative. Bonjour Linda Kabore.
Bonjour.
Merci d'être là. Notre quatrième invitée est une femme de terrain. Elle est à la rencontre de nombreuses femmes du secteur privé. Mariam Djibo, directrice générale d'Advance Côte d'Ivoire, l'une des plus importantes institutions de microfinance en Côte d'Ivoire et ancienne présidente du groupe de réflexion Initiative Côte d'Ivoire. Il faut préciser qu'elle a une impressionnante expérience professionnelle dans divers métiers de la finance. Bonjour Madame Djibo.
Bonsoir Alain.
L'idée de cette série est partie du fait que la plupart des femmes en Afrique ne se reconnaissent pas toujours dans celles particulièrement, on va dire, malheureuses et tyrannisées que les médias présentent lorsqu'on parle d'elles. Pensez-vous que les médias internationaux sont dans la caricature lorsqu'elles évoquent les femmes africaines ? Ma question s'adresse d'abord à Mariam Djibo.
Est-ce qu'on en rajoute ? Je pense qu'en fait, tout dépend de l'angle de traitement de l'information. C'est vrai que l'Afrique dont on veut parler est une Afrique pour laquelle on veut susciter de l'aide, on veut susciter de l'accompagnement. Donc c'est vrai qu'il est important aussi de montrer des images et des réalités, voilà, qui sont tristes ou qui témoignent en gros du gros retard de développement du pays. Mais aussi, il est vrai qu'on n'a pas suffisamment, d'images de réussite, d'histoires positives à montrer, mais ça c'est peut-être aussi un peu de notre
justement source. J'allais le dire, on a le sentiment que lorsqu'il s'agit de parler des choses positives, ce sont les femmes qui sont réticentes. Lorsqu'on invite les femmes sur les plateaux, on a le sentiment qu'elles veulent pas venir. Là je m'adresse par exemple à Madame Bakayoko. Est-ce que vous n'avez pas aussi le sentiment que cette image qui n'est pas forcément la meilleure vient aussi du silence de ces femmes-là?
Je pense que oui, mais partiellement. Elle provient du silence de ces femmes parce qu'avant tout, je pense que c'est une question d'éducation, c'est une question de culture, c'est une question de tradition, de voir de là d'où on vient. Mais cette tendance a de plus en plus, je dirais, on le constate, hein, on constate un changement. Maintenant, elles sont beaucoup plus émancipées. C'est vrai qu'il y a une certaine, je dirais, diversité et disparité en même temps. On ne trouvera pas les mêmes réalités en Côte d'Ivoire, par exemple, qu'au Congo. parce que j'ai été directrice générale au Congo pendant 4 ans, donc je sais de quoi il s'agit.
Il y avait moins de femmes dans le secteur.
Il y avait moins de femmes dans le secteur bancaire, précisément. Il y avait moins de femmes également dans le secteur, tout simplement, et même en secteur public. Au Congo, de 2013 à 2017, lorsque j'y étais, nous n'étions que deux femmes, et il n'en restait qu'une seule, c'est-à-dire moi, les deux dernières années. Donc imaginez.
Mais c'est quand même paradoxal lorsqu'on sait que le Congo a une vieille tradition de, on va dire, d'éducation. L'école là-bas était quasi obligatoire depuis le départ. Comment expliquer ?
Je vous le concède, mais il n'en demeure pas moins que ça reste, je dirais, la mama. Aussi surprenant que ça puisse paraître, je suis en plein meeting avec des responsables politiques et qui m'appellent et qui me disent « maman ». Donc c'est le premier choc.
C'est une tradition dans la région congolaise.
Absolument.
La femme, c'est maman.
Donc c'est le respect. Et c'est dire que c'est un respect qui, de par sa tradition, est plutôt cantonné à autre chose, je dirais, que de prendre le micro, de s'émanciper, de parler de soi et de partager, je dirais, son expérience. Mais ceci dit, si je prends le cas en Côte d'Ivoire, nous avons de plus en plus justement de femmes leaders, nous sommes toutes présentes ici, et qui ont de la voix. D'accord. Toujours dans le secteur bancaire, aujourd'hui nous avons, et c'est important de le souligner, 80% je dirais d'une des grandes banques de la place à réseau, 80% de ces caissières se trouvent être des femmes. Est-ce que ça veut dire qu'elles ne peuvent pas être plus que des femmes? Je dirais plus que des, pas plus que des femmes, mais plus qu'être caissière. Et il y a, je pense, de quoi à faire. Nous sommes trois femmes aujourd'hui dans le secteur bancaire à être directrice générale. C'est incroyable.
Mais comment l'expliquer? Parce que quand on regarde dans les salles de classe, et pas seulement maintenant, les femmes, elles étaient très souvent plus brillantes. Et elles étaient plus nombreuses dans les salles de classe. À quel moment on les perd en chemin?
On les perd à diverses étapes. Mm-hmm. C'est vrai que...
Camille du Parc.
Voilà. C'est vrai qu'à la base, déjà, les femmes ne sont pas les plus nombreuses dans les classes, même si elles sont les plus brillantes. Elles ne sont pas les plus nombreuses. Pourquoi? Parce que...
Encore aujourd'hui?
Encore
j'ai
aujourd'hui.
J'ai eu le sentiment qu'elles étaient plus nombreuses.
Elles sont plus nombreuses qu'avant. Mais elles ne sont pas encore assez nombreuses. Je veux dire qu'aujourd'hui, dans les villages, la priorité est toujours donnée aux garçons lorsqu'il s'agit d'aller à l'école. C'est systématique. Aujourd'hui, dans un pays émergent comme la Côte d'Ivoire. Donc, même aujourd'hui, c'est vrai qu'on a plus de femmes qu'avant, mais on n'en a pas suffisamment.
Mais à quel moment on les perd ?
Alors, on les perd d'abord au moment de passer à l'étape du CM2, quand elles ont leurs règles. Ça, c'est un grand facteur, en fait, de sortie de l'école.
Comment ça ?
Mais pour la simple raison, ce n'est pas un phénomène qui est propre à la Côte d'Ivoire, mais à la plupart des pays émergents, et qui est très sensible en Inde aussi. Au moment où elles ont leurs règles, il n'y a pas de dispositif, il n'y a pas de toilette, il n'y a rien pour elles pour se changer. Ah. Et effectivement, et ce simple facteur-là fait qu'en général, elles préfèrent rester à la maison. Quand on ajoute à ça les douleurs, les moqueries, parce que ça arrive très souvent, une bonne majorité des filles déjà vont partir à cette étape-là. Ensuite, entre, on va dire, le CM2 et puis jusqu'à la terminale, il y a beaucoup de grossesses précoces. Parce qu'on a toujours des problèmes de formation en termes d'éducation sexuelle. Il y a des gros tabous aujourd'hui. Et donc, il y a beaucoup de jeunes filles qui vont partir à cette étape-là. Et ensuite, il y a aussi le fait, entre la maternelle et la terminale, que dès que la famille a des problèmes de trésorerie, les premiers enfants qu'on va sortir de l'école, ce sont d'abord les filles. Parce que c'est sur le garçon que va reposer...
Mais surtout en zone rurale, non ?
Non,
dans
pas
les,
seulement.
Dans les centres urbains, c'est
non,
pas pareil, non ?
Non, même dans les quartiers populaires aussi, quand il manque de moyens, la fille reste à la maison pour aider sa mère à la tâche et le garçon reste à l'école.
Alors là, Linda Kabore, vous avez une expérience là-dedans, vous allez voir les enfants dans des quartiers. Vous sentez le même phénomène dans cet environnement-là ? Là, par exemple, vous étiez dans un quartier il y a quelques jours.
Ce matin.
Ce matin. Avez-vous le même sentiment aujourd'hui ?
Non, c'est tout à fait ce que Kadi a dit. On ne se rend pas compte, mais quand je fais des réunions, etc., il y a beaucoup de jeunes filles qui ne peuvent pas rester, surtout en période de carême, parce que ce sont elles qui vont faire la cuisine à la maison. Elles me disent « Ma reine, je ne peux pas parce que c'est moi qui dois aller préparer le repas ». Ça vient c'est culturel. Comme disait Viviane, c'est culturel. La fille... est toujours la première sacrifiée. Parce que, surtout depuis le temps, et la colonisation a fait qu'on a donné plus le savoir d'abord aux hommes, aux petits garçons. Ici, en Côte d'Ivoire, il y a 40% des filles qui vont à l'école, 43, je crois, contre 57 des petits garçons. Et ça, quand on compte, c'est les petites classes. Et plus on monte, plus l'écart est grand. Et ces petites.
Vous voulez dire que ces traditions-là ont la vie si dure?
Bien sûr.
Avec les gens que l'on voit en ville aujourd'hui, on a le sentiment que.
Mais quel pourcentage? Quel pourcentage? Ça augmente d'année en année. Regardez, par exemple, ici en Côte d'Ivoire, on a eu des législatives où il y a une loi qui a dit que sur la parité, il fallait, en 2019, qu'il fallait que 30% des candidats soient féminins. Bon, d'abord, il n'y en a eu que 15%. 15%. Donc,
mais quelquefois, quand on dit ça, on dit les femmes ne sont pas là. Que va quelquefois les chercher au forceps pour les amener à faire de la politique.
Non, mais il y a de la pression aussi, parce que les gens disent que les femmes ne vont pas y arriver, alors que c'est les contraires.
Oui, mais j'ai vu des politiques qui étaient en train de chercher des femmes pour mettre dans des listes.
Oui, mais justement, parce qu'elles s'occupent du social, elles s'occupent de la santé.
C'est peut-être le moment pour ces femmes-là.
Mais il y a une formation. Mmh. Donc, la formation politique a lieu jusqu'en 2023. Donc, il faut se dire que dans 5 ans, il y aura beaucoup plus de femmes. Il y a plus de 85 femmes qui sont en formation.
Non, mais là, je voudrais quand même que, puisqu'on parle aux femmes, aussi, peut-être qu'il y a une responsabilité là-dessus, non, Viviane, de la part des femmes, de dire, moi, je ne vais pas faire de la politique. Dans leur esprit, ce n'est pas pour elles, parce que j'ai vu des mouvements politiques qui cherchaient des femmes pour les mettre sur la liste.
Moi, je suis tout à fait d'accord. Il faut avoir un discours quelque peu, je dirais, balancé et équilibré là-dessus. C'est vrai que le Parlement ivoirien aujourd'hui ne compte que pour 12% de femmes.
Ça, 12%.
C'est clair. Oui, et nous sommes passés de 28 à 34.
D'accord. Ça vient.
Et donc, d'année en année, on voit la croissance. Et je suis d'accord avec toi qu'il faille aller chercher ces femmes-là afin qu'elles puissent s'exprimer et avoir cette volonté d'être au devant.
D'où les formations.
D'où les formations. Donc ça, c'est un point valide. Ceci étant, elles-mêmes, que de le faire, il y a quelques limites. Je vais revenir encore au milieu bancaire et au point que tu émettais tout à l'heure, à savoir, mais où est-ce qu'on a loupé le coach? Écoute, je donnerai même deux exemples. Un exemple que je vois en tant que directrice générale depuis 7-10 ans, j'ai des collègues qui décident à un moment et qui sont très bien placés et qui sont en passe, je dirais, d'être promus, mais qui décident pour des raisons, je dirais, d'instinct maternel, pour des raisons de responsabilité sociale, que de prendre des années sabbatiques et de s'occuper de leurs enfants, de leur mari. Il est plus facile pour le mari d'être en expatriation et d'avoir toute sa famille qui le suive que l'inverse. Moi, j'en suis la preuve vivante. Alors, j'ai passé 4 ans et demi au Congo, mais j'ai laissé quand même mon mari et mes enfants en Côte d'Ivoire. Je veux dire, bon, c'est une exception et c'est une chance que j'ai eue que d'avoir une mère, que d'avoir des sœurs et d'avoir un époux, je dirais, compréhensif. Mais combien penses-tu qu'il serait prêt à le faire à un moment de ce tournant de cette carrière? Le dernier point sur lequel peut-être je veux revenir avant que Myriam, je suis sûre, mentionnera quelque chose, c'est que nous sommes dans des économies qui sont, je vais dire, limitées pour l'instant, d'accord? Donc avec des tailles qui, pour lesquelles tout le monde essaie de se battre pour un même gâteau donné. Alors, pour les multinationales pour lesquelles nous travaillons, moi je travaille pour Citibank, c'est la première fois, le débat des femmes n'est pas singulier à l'Afrique ou à la Côte d'Ivoire, c'est la première fois au monde qu'on a un CEO d'une banque internationale, Jane Fraser, pour laquelle je travaille aujourd'hui. Et ça attire les femmes parce que, comme tu disais tout à l'heure, ça a ce caractère de leadership et on motive. Mais quand on revient en Côte d'Ivoire et qu'on se rend compte que dans les CV que l'on reçoit, on a plus d'hommes, je dirais, pas autant, mais on a plus d'hommes que de femmes, tout simplement parce qu'elles se retirent. À un moment, il y a un choix à faire. Et cette question de choix, du point de vue de la limitation de nos économies, elle se pose. Pourquoi ? S'il faut que je parte de la Côte d'Ivoire pour éventuellement avoir ce caractère régional en termes de position et de rôle, il faudrait que je sois prête à m'expatrier. Là, aujourd'hui, c'est vrai que tu as mentionné que je suis directrice de la Côte d'Ivoire, mais je gère également les multinationales de l'Afrique francophone et de l'Afrique centrale. Mais je suis en Côte d'Ivoire, tant mieux pour moi. On m'aurait demandé, mais écoute, Viviane, il faudrait que tu ailles au Gabon, il faudrait que tu ailles au Sénégal. J'aurais dit, bon, écoute, 4 années d'expatriation, c'est peut-être bon, mais plus
oui,
que
mais bon,
ça...
Oui, mais bon, là, vous êtes déjà dans une posture qui est importante. Moi, je voulais qu'on parte du fait qu'on perd du monde en chemin. Est-ce le fait des hommes? Est-ce le fait des femmes elles-mêmes? Parce que là, on se rend souvent compte que ce sont les mamans qui brident, non? l'expérience.
En fait, je pense qu'il y a. Vous parliez tout à l'heure de responsabilité. En fait, je pense qu'il y a vraiment les deux. On est enfermé en fait dans des constructions sociales, et c'est à la fois le fait des hommes que ça arrange parce qu'ils ont un complexe, je dirais, de supériorité.
Merci.
Ils ne supportent pas la contradiction. Ils ne supportent pas, le leadership.
J'ai bien fait
féminin,
d'initier cette émission. Je me fais insulter.
Et de l'autre côté, c'est vrai que la femme aussi, elle a été éduquée, je dirais, dans cette construction-là, où on lui répète, on lui donne des missions qui sont plutôt, je dirais, des missions sociales, occupe-toi de la maison, occupe-toi de ton mari, etc. Et donc, elle doit lutter contre ça.
Oui,
et
on voit les mamans généralement dire, non, ça, c'est pas pour elle, ou bien c'est elle qui est la première à brider la fille.
Oui, en fait, les mères, en fait, si vous voulez, elles vont continuer, et elles vont continuer la tradition. Après, elles veulent que les femmes réussissent. Mais à un moment, moi j'ai plein de collaboratrices au bureau, à un moment on va leur dire, mais voilà, il faut que tu aies un enfant, il faut que tu te maries. Oui. Et là aujourd'hui, moi, dans mes collaboratrices, j'ai interrogé une quarantaine de femmes, il y a 600 collaborateurs chez Advance, 50% de femmes. J'ai interrogé les middle managers, donc celles justement qui doivent passer à l'étape supérieure. Mm-hmm. 81% d'entre elles expliquent qu'elles ont du mal à concilier la vie privée et la vie professionnelle. Elles ont peur qu'on leur demande plus, et donc elles ont peur d'aller plus haut. Et donc pour ça, elles ont envie, elles ont plutôt tendance à se retirer parce qu'elles ont peur de ne pas être à la hauteur des engagements qu'on va leur demander à côté de toute la charge familiale, etc. Donc il y a vraiment cette construction sociale-là, et qui en plus, je dirais, renforcée dans nos sociétés par rapport, je dirais, aux pays développés par le poids de la religion. Tous les prophètes sont des hommes. Non, ça, vraiment, il y a
Il y a des femmes, il y a quelques femmes.
Je pense que...
Ce qu'elle a dit, c'est vrai.
Parce on rajoute au débat, là.
Déjà, plus de 65% du secteur informel et des plantations, etc., ce sont des femmes. Ensuite, les directrices, enfin, celles qui dirigent les petites entreprises, on arrive maintenant à 20%. Et les moyennes entreprises, nous, je crois, les pharmacies, c'est les moyennes entreprises, on est à 9%. Pourtant, en pharmacie, 56% des pharmacies sont tenues par des femmes. Ça, c'est exceptionnel. Ça doit être l'un des seuls métiers. Oui, et plus on monte, et là, quand on arrive au sommet, on est peut-être à 0% ou à 1% seulement des dirigeants qui sont CEO.
Et c'est toujours du fait des hommes,
les pharmacies, pourquoi? Parce que, d'abord, à la fac, elles sont encore beaucoup plus nombreuses, mais parce que c'est un métier qui... C'est vrai que c'est un sacerdoce, on est derrière notre comptoir toute la journée, et qu'on est tenu d'être derrière notre comptoir. Mais on arrive aussi à concilier vie professionnelle et vie sociale, parce que on a des assistants, donc en général, si on est dans une petite ville, on peut rentrer à la maison et s'occuper des enfants, etc. Mais on a remarqué que dans notre profession, on a eu notre congrès la semaine dernière, la salle était remplie de femmes. Donc les
donc,
femmes
y a un
sont
mouvement, femmes. Il y a un mouvement aujourd'hui.
Et je vais vous dire que ces fêtes comme le 8 mars, qu'on négligeait un petit peu avant, ce sont des boosters et qui... Maintenant, les femmes se rendent compte de la valeur qu'elles ont.
Mais bon, dans certains pays, c'est juste l'occasion de la fête, pour le 8 mars.
Non. Dans d'autres pays, c'est férié. Dans d'autres pays, c'est férié. Et il se passe ces jours-là des prises de conscience. Je peux y
arriver.
Mais
ils sont rares, ces pays-là, parce que j'en connais en Afrique centrale, où c'est
ici,
le jour où
ici,
tout est autorisé pour la femme. Elle revient généralement le matin.
Non, là, c'est autre chose. Mais ici, il y a énormément de formations. Tous les jours, des formations d'associations pour les femmes, pour leur apprendre à entreprendre, etc. Et ça, je le vois de plus en plus.
Et alors, Alain, si je peux me permettre, je souhaiterais rebondir sur ce que Linda a dit en ce qui concerne le fait qu'il y ait 66% justement de femmes qui sont dans ce métier libéral. Il y a également le caractère de la flexibilité. Sur le continent africain, absolument, tu disais tout à l'heure, on a 20 à 24% d'entrepreneurs qui sont des femmes.
24% d'entrepreneurs qui sont des femmes. Et c'est sans compter celles plus nombreuses qui sont dans le secteur informel. On en parle dans une dizaine de minutes dans la suite de ce débat africain spécial Femmes Leaders qui est aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Tout de suite, une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale et on se retrouve pour la suite.
Le débat africain, Alain Foucault.
On les présente toujours comme le moteur des économies africaines, la majorité sans laquelle rien ne peut se construire. Mais dans le même temps, elles font l'objet de discrimination, d'exclusion et même souvent de violence. Seulement, elles sont nombreuses à avoir décidé de mettre un terme à cette injustice. En ont-elles les moyens? Comment peuvent-elles renverser la tendance? Dites, pourquoi ne leur donnerait-on pas la chance de prendre en main nos destins en Afrique? Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez seulement maintenant dans la seconde partie de notre étape ivoirienne de la série des débats africains consacrés aux femmes leaders en Afrique. Avec sur ce plateau d'Abidjan plusieurs invités, plusieurs femmes de tête. D'abord Khadija Dupac, présidente et directrice générale de Sky Architects, cabinet qui gère d'importants projets dans la sous-région tels que l'électrification rurale, la construction des sites de production, des hôpitaux, des bureaux, des logements sociaux et autres ouvrages. Notre seconde invitée est Viviane Bakayoko, directrice générale de Citibank Côte d'Ivoire. Notre troisième invitée, multitâche, particulièrement active dans son secteur, celui de la santé, est le docteur Linda Kabore. Notre quatrième invitée est une femme de terrain, Mariam Djibo, directrice générale d'Advance Côte d'Ivoire, l'une des plus importantes institutions de microfinance en Côte d'Ivoire et ancienne présidente du groupe de réflexion Initiative Côte d'Ivoire. Alors j'ai envie de poser la question à Madame Dupac, Khadija Dupac. Dites-moi, quand on décrit ça, on a l'impression qu'en face, on a des hommes qui tiennent absolument à leur primauté. Je vois Linda qui tout de suite acquiesce. Mais est-ce qu'il n'y a pas une évolution de ce côté-là aujourd'hui?
Du côté des hommes?
Oui.
Une certaine évolution dans les jeunes générations. Enfin, une certaine partie des jeunes générations, pas toutes.
Ah oui?
Oui, pas toutes.
D'accord.
Oui, effectivement, cette génération d'hommes qui ont été élevés par des femmes comme nous sont beaucoup plus conscients des inégalités, du manque d'équité, parce qu'ils ont vu leur mère se battre. Moi, je vois mes fils et j'en vois d'autres, les fils de mes amis. Et cette génération-là est consciente. Elle est consciente et puis elle est éclairée. Et responsable. Et je pense qu'on ne peut pas éternellement parler d'équité et d'égalité en occultant le rôle des hommes, parce qu'on ne peut avancer dans ce sens-là que justement en éduquant, en formant, en convaincant. Simple exemple, hein, la plupart de nos gouvernants ont signé un certain nombre de lois, décrets, surtout en Côte d'Ivoire par exemple, pour l'égalité, pour l'équité, qui si elles étaient appliquées, mais nous serions en paradis, ce serait le paradis ici. Sauf qu'elles ne sont pas appliquées.
Et que ne voit pas ces femmes venir, qu'ils ont fait des lois, mais en face, il n'y a personne qui semble se mobiliser
pour ça.
Parce qu'elles
sont intimidées
par qui?
Non, mais c'est pas... C'est
vous allez intimider?
Non, c'est pas tellement... pas tellement qu'elles sont... On le fait. Si vous regardez sur les réseaux sociaux, on communique. Là, je suis en train de le faire. On le fait. Mais on est inaudible pour l'instant, parce que de toute façon, au niveau des lois, on ne peut rien faire. Tout ce qu'on peut faire, nous, c'est à notre niveau, puisque de toute façon, rien ne peut venir du haut, ou en tout cas, on n'attend pas grand-chose du haut. C'est de faire partir les choses du bas, bottom-up. Et effectivement, on est dans des associations, on milite en permanence, on essaie de jouer, on fait du mentorat, du coaching, on joue les rôles modèles. Ça ne se voit pas, parce que c'est souterrain, parce qu'on n'est pas exposé. Vous disiez tout à l'heure, ah oui, mais on appelle les femmes, elles viennent pas. Mais à combien de femmes?
À chaque fois où on fait une émission, on appelle une femme africaine.
Non, je ne suis pas d'accord.
Elle a plutôt tendance à dire,
que c'est son mari qui a refusé.
Non, c'est pas ça.
Ça y est. C'est la même chose.
Non, au-delà de ça, c'est pas forcément le mari. Moi, je connais énormément de femmes, chefs d'entreprise ou leaders, qui aiment le micro, qui sont prêtes à parler, mais on leur tend jamais le micro, justement. Donc peut-être que des personnes comme vous nous tendent le micro de temps en temps, mais la plupart du temps, ces micros ne sont tendus qu'à des hommes.
Ceci dit, ma collaboratrice est une femme et nous faisons une bagarre permanente pour qu'il y ait parité. Mais elle, si elle était là, elle vous dirait, c'est la plus grosse difficulté que j'ai à faire venir les femmes pour parler d'elles ou pour parler de leur activité. Donc il y a quelque chose...
Je vais vous l'expliquer. Je finis juste sur le sujet des hommes. De toute façon, aujourd'hui, ce sont les hommes les signataires des lois, ce sont les hommes qui sont dans les lieux de pouvoir et sans leur collaboration, nous n'arriverons à rien. Donc nous sommes obligés d'aller les chercher et de travailler main dans la main. Et je peux vous dire qu'effectivement, il y a du changement et de manière nécessaire, puisqu'on n'est pas invisible, il va falloir qu'ils tiennent compte de nous. Maintenant, pour en revenir à cette invisibilité des femmes, oui, vous avez raison. La responsabilité n'est pas entièrement due aux hommes. Non, les hommes, oui, les hommes. Non, non, mais bien sûr, ils ont le pouvoir. Et jamais on ne lâche le pouvoir comme ça quand on l'a, de manière aussi simple. Donc ils se défendent. Nous, on se bat, mais ils se défendent bien. Mais ceci étant, nous avons notre part de responsabilité sur plusieurs plans. La première chose, c'est que nous avons, pour la plupart des femmes, et vous avez raison sur les mères, nous avons engrammé un tel nombre de croyances limitantes. Nous avons tellement engrammé d'injonctions de la société, de la religion, de la culture, surtout dans nos sociétés africaines qui sont très paternalistes et où même traditionnellement la place des femmes n'est pas la meilleure, sauf pour celles qui sont dans les sociétés matrilinéaires. Donc nous avons tellement engrangé d'injonctions. Une fille c'est doux, une fille c'est gentille, une fille ça réclame pas, une fille c'est au service de ses frères, une fille, bah oui, une fille. Bah, Linda, je te disais, je t'entendais, je la taquine, je t'entendais dire la dernière fois, non mais la stabilité du foyer, la responsabilité de la stabilité, de l'harmonie du foyer, ça repose sur la femme. Waouh, mais quelle charge mentale, excuse-moi. Ouh, mais pourquoi sur nous? Pourquoi? Oui, ça repose sur nous, mais pourquoi pas sur eux? Voilà. Donc, même quelqu'un comme Linda qui se bat pour les femmes tous les jours est capable de dire ça, et en y croyant vraiment, c'est qu'on a un souci. Et moi, je connais des femmes qui sont médecins, qui sont entrepreneurs. Quand leurs filles leur disent, je suis architecte, maman, je veux être architecte, ah oui, non, mais quand même. Là, c'est, tu vas pas pouvoir gérer ta famille, tes enfants. Je vous parle de femmes qui ont des métiers, hein, qui, je veux dire, qui tous les jours se battent. Mais justement, elles ont tellement eu à se battre que des fois, bah, elles préfèrent que leurs filles aient la sécurité de l'emploi, n'aient pas trop à se battre. Et donc, tu te rends compte, tu ne vas pas pouvoir avoir des enfants, ça va être compliqué. Non, sois plutôt architecte d'intérieur. Non, mais c'est terrible. C'est pourquoi? Parce que les maths, ce n'est pas fait pour les filles. Mais quand on a entendu ça toute son enfance, on finit par l'intégrer. Et que même si c'est vrai qu'on se bat, elle, moi, tout le monde, même nous, on l'a intégré, on a engrammé ces croyances limitantes. Et des fois, on se retrouve à dire des choses. Quand on me présente, moi, même la dernière fois, j'étais invitée à un panel d'une femme qui est très féministe. Et elle a présenté systématiquement toutes les femmes en commençant par « Je vous présente Kadi, mère de 3 enfants, mariée. » Je dis « Mais je suis venue parler de quoi? De ma famille ou de boulot ?» Non, mais c'était ça. C'était systématique.
Ce que disait Kadi, c'est-à-dire que je pense qu'il n'y a pas aujourd'hui, si jamais on ne peut pas avoir une carrière, on ne peut pas être une femme leader, comme on dit, si on n'a pas le compagnon qui, entre guillemets, autorise cela. Autorise cela vraiment par un partage. C'est-à-dire que, bien évidemment, on va pas sauter des générations. C'est vrai que nous, on a tout envie d'avoir une maison qui fonctionne, d'avoir des enfants qui sont bien éduqués, qui travaillent bien à l'école, etc. La seule différence, c'est que cette responsabilité-là, elle ne repose pas uniquement sur nous. Et elle repose aussi sur le conjoint. Et ça, c'est vraiment important. Et le jour où vous avez un conjoint qui partage cette responsabilité-là, là, il y a vraiment le monde des possibles, je dirais, en termes de carrière et d'évolution qui s'ouvre.
Vous donnez l'impression que tous
donc, le rôle de l'homme est très important.
Voilà. Vous donnez l'impression que ce conjoint sorte du village.
Non, mais le conjoint, ça l'arrange.
Je pense que ce qu'il faut retenir dans ces interventions,
c'est la complémentarité. Et c'est de reconnaître effectivement que ce voyage de l'émancipation de la femme et tout le reste ne peut pas se faire sans l'homme. Et bien évidemment, ne peut pas se faire sans la femme elle-même.
On dit ça pourquoi? Parce qu'autour de nous, il y a beaucoup de femmes qui ne peuvent pas. Moi, par exemple, Dieu merci, j'ai un mari qui est très compréhensif et qui ne m'empêche
là,
pas...
Là, vous vous raccrochez après tout ce que vous avez dit.
Mais
Jean-Philippe, c'est pas vrai.
J'ai beaucoup d'amis... Je rêverais de faire comme toi, mais moi, je ne peux pas rentrer après 18 heures parce qu'il va me dire, mais tu peux pas laisser les enfants, je ne peux pas partir en voyage parce qu'il va pas comprendre pourquoi, etc.
Mais est-ce que vous n'avez pas le sentiment que les hommes aussi, quand ils doivent tailler un voyage, ils doivent négocier? Parce qu'on a le sentiment que le garçon
pas,
se lève,
il te dit que je pars en voyage.
Je pense qu'ils ont cette capacité de mettre au devant leur responsabilité sociale et vis-à-vis de la famille. Je dois le faire pour prendre soin de vous.
Voilà. Ils ne se demandent pas qui va faire les choses.
Mais pourquoi pas la réciprocité?
Voilà. Dans le même temps, ils ne sont pas tous dans votre cas. Je veux dire, c'est très souvent lui qui prend soin de la famille.
N'est-ce pas?
Non, mais quand il s'en va, il ne se demande pas qui va amener l'enfant chez le médecin, il ne se demande pas qui va faire les courses.
Il part vraiment l'esprit
léger.
Et ce qui est important dans ce que tu viens de dire, parce que tu viens de mentionner, c'est lui d'un point de vue pécunier qui prend soin de la famille. Rappelle-toi une chose, c'est que du point de vue des statistiques dernières, de McKinsey d'ailleurs, il mentionne très bien que 25% des entreprises qui voient des femmes dans leur conseil d'administration arrive à augmenter de 20% en plus avant impôt leurs résultats.
Oui.
Oui. Bah, évidemment.
Pourquoi expliquer ?
Mais tout simplement parce qu'on a une vision complètement différente. C'est la complémentarité dont on parlait tout à l'heure. À savoir que l'homme est beaucoup plus, je dirais, en matière de prise de risque. Je veux dire, c'est le taureau. Absolument, il fonce dans la masse. Enfin, c'est toi qui l'as dit.
Parce que tu le penses tellement.
Mais... Mais en ce qui concerne la femme et la femme responsable de surcroît, elle va dans le détail. Elle cherche justement à savoir pourquoi, comment. Et tu vois, il y a toute cette analyse que l'homme ne fera certainement pas.
Au-delà de ça, il y a ça, mais les facteurs aussi qu'ils ont analysés, c'est le fait que les femmes, de leur parcours en fait, hein, vu qu'on doit s'occuper de nos parents, de nos enfants, de notre mari, du métier que l'on fait, on est multitâche, on est polyvalente. Et ça, c'est un atout, justement, à ce niveau de responsabilité, c'est un véritable atout. Deuxièmement, on a de grandes capacités dans tout ce qui est relationnel. Pour une femme, ce qui compte quand il faut progresser, c'est la compétence. Pour un homme, c'est le pouvoir. Et ça, c'est des choses qui, à ce niveau de responsabilité-là, comptent beaucoup. Je voudrais revenir aussi sur... Tu parlais tout à l'heure du fait de la responsabilité des femmes. Pourquoi on ne vient pas se mettre devant vos micros, tout ça ? Parce qu'on a tendance à s'auto-censurer également. Pourquoi ? Parce qu'on est perfectionniste. Une femme, si elle n'est pas... Si, c'est vrai.
On va dans le détail.
C'est vrai dans la mesure où si on n'est pas sûr d'être compétente à 100% sur quelque chose, on ne le fait pas. Un homme ne se pose pas toutes ces questions-là. Et c'est prouvé, hein, c'est démontré, qu'un homme, même s'il a 40% des compétences, il fonce. Ça, c'est pas grave. Nous, si on ne maîtrise pas l'entièreté de la chose, on va avoir du mal à venir.
Et l'ambition est connotée quand même négativement du côté des femmes.
Exactement.
C'est vrai que c'est un souci. Ouais. Vous avez l'homme ambitieux, c'est positif. L'homme ambitieux et l'homme qui réussit, il est aimé. Je crois qu'il y a une étude de Vivienne de Beaufort, là, qui est professeure à l'ESSEC, qui disait ça, et qui dit, un homme qui réussit, il est aimé des hommes et des femmes. Une femme qui réussit est détestée de ses... Et détesté de tout le monde. Donc vraiment, Et donc l'ambition, on ne l'assume pas. On a, comme disait Caldi, il y a le souci de la perfection. On vit avec des peurs, la peur de ne pas être une bonne mère, la peur d'être une bonne épouse, d'être une mauvaise collaboratrice, de pas être une bonne directrice générale. Et donc toutes ces peurs là,
Mais vous pensez que nous aussi on n'a pas peur, franchement?
Non,
on a le sentiment on n'est que des taureaux, on n'agit pas en y pensant. Je vois la mousse.
Ce n'est pas une question.
Non, vous avez pas. Ce qui se passe, c'est que
l'homme, il a peur que si la femme n'est plus à la maison, qui va prendre en charge tout ce qu'elle fait. C'est-à-dire que s'il a une femme qui prend tout ça en charge, il faut qu'elle continue de prendre entièrement en charge la maison. Tandis que l'homme, il se dit, si elle me laisse tout ça sur le dos, moi, je ne vais pas y arriver. Et c'est pour ça que les hommes sont souvent un facteur bloquant. Mais ce que disait Mariam, une femme n'a pas le droit à l'erreur. Et puis, surtout, les femmes, elles sont là elles-mêmes à te guetter. Moi, je sais que tous les jours, j'ai la réflexion, mais et ton mari, qu'est-ce qu'il te dit ? Et tes enfants ? Je dis, mais je m'occupe de mes enfants. Et moi, j'ai expliqué à mes enfants depuis qu'ils sont petits. Ce n'est pas la quantité de temps qu'on passe ensemble, mais c'est la qualité du temps qu'on passe ensemble. Parce qu'il y en a, tu peux rentrer tous les jours à 17h à la maison, mais si tu ne fais rien avec tes enfants, c'est comme si tu n'étais pas rentré.
Si c'était un homme qui disait ça, on allait dire, voilà
le monsieur. Non, mais c'est important.
Il nous explique ça comme ça.
C'est facile de nous reprocher de ne pas être à la maison, mais il faut que les moments... que tu passes avec ta famille soit intense, inoubliable.
C'est valable pour nous aussi. Alors, j'ai envie de dire, vous êtes des femmes leaders, il y a des filles qui vous regardent, qui aimeraient vous voir plus souvent, qui aimeraient vous écouter plus souvent parce qu'elles ont besoin d'espoir, parce qu'elles ont besoin d'en finir avec cette image misérabiliste que vous reprochez à l'ensemble des médias. Dans quel domaine doivent-elles aller ? Qu'est-ce doivent-elles faire pour prendre la place qui est la leur, qui n'attend qu'elle.
Je pense qu'il n'y a pas de domaine prédéfini pour une femme ou pour un homme. Tout est question de compétences, tout est question de formation, continue, tout est question de
est-ce qu'elle doit comprendre
vision.
Que le mariage n'est pas la
Donc,
fin
Elles doivent d'abord comprendre. Moi, j'ai été élevée avec la phrase qui n'arrêtait pas justement de résonner, ton premier mari, c'est ton travail. Maintenant, au fur et à
mais
mesure...
Mais ça devait venir de ton père, pas de ta mère.
Sûrement de ma mère.
Ah bon ?
Oui, enfin, des deux, mais plus de ma mère. En tout cas, je l'entendais bien venant d'elle. Mais ceci étant, je veux dire, ça n'est pas une revanche envers quoi que ce soit. C'est une question, je dirais, d'équilibre. Donc il est important que les jeunes puissent comprendre que tout est une question de formation. Aujourd'hui, le capital humain, hommes et femmes, ne peut qu'être que complémentaire. On a déjà compris que c'est un impératif commercial que d'avoir une femme dans son entreprise. Au sein de la City, et je suis contente d'y être parce qu'on développe véritablement, et donc du coup je développe ces idées, des idées quand en termes de recrutement, on applique le 2+2, deux femmes et deux hommes en ce qui concerne ceux qui doivent faire l'interview. Au niveau des candidats...
Mais est-ce que vous avez suffisamment de candidates dans ce cas-là?
Moi, je même si on les a pas
aujourd'hui, qui m'a dit...
On va les chercher.
Celle que je rencontre aujourd'hui me dit, quand j'ai besoin de quatre femmes, j'ai souvent du mal à avoir les quatre femmes.
C'est vrai. Je confirme qu'on a, on a tout ce problème. Et puisque vous parliez d'orientation, moi, je vais les exhorter vraiment à arrêter de s'orienter en marketing communication, vraiment. Je n'en peux plus. 99% des femmes font marketing
commercial.
En fait, elles s'orientent prioritairement vers les métiers qui ne demandent pas trop d'expertise, trop d'engagement, bien qu'en marketing et communication, il peut y avoir de l'expertise, mais elles s'arrêtent au niveau où, justement, on a pas cette expertise-là, on n'est pas pointu, et qu'elle s'oriente plus vers des métiers qui soient plus techniques, qui soient peut-être plus financiers. Moi, je suis dans le bâtiment. Je suis architecte, mais je galère. Mais c'est une vraie galère de recruter des femmes. C'est surtout des femmes ingénieures, des femmes techniciennes, des femmes architectes. Ça commence. On est à, 20% de femmes architectes contre 80% d'hommes. Et ça, c'est une vraie progression. Hein. Avant,
c'était et là, c'est pas la faute des hommes. Hein.
Non. Là, pour le cas, c'est systémique. C'est la faute de la société plus que de la faute des hommes. Mais c'est vraiment important qu'elles s'orientent vers ces métiers-là parce qu'il y a de l'emploi rémunéré, hein, et plutôt que de s'engouffrer vers des métiers type marketing, communication, où elles vont de toute façon finir au chômage parce que c'est ce qui arrive aujourd'hui. Donc je les exhorte à ça. Il faut oser. Vous avez les compétences, vous avez l'intelligence, vous avez la place. Elle est là pour vous. Nous sommes nombreuses à vous attendre. Mais osez. Il faut oser.
Moi, quand même, ce que je voudrais qu'on retienne, c'est... parce que vous disiez tout à l'heure la faute des hommes. Non, en fait, on n'est pas du tout en train de dire que c'est la faute des hommes.
Tout ce qu'on leur demande,
non, vraiment, tout ce qu'on leur demande, c'est vraiment de nous accompagner, vraiment, pour faire changer les choses, parce que sans eux, on n'y arrivera pas. Donc, il faut qu'on ait plus de femmes politiques. Vous le disiez tout à l'heure, hein, pour qu'elles nous aident à changer les lois. Il faut qu'on ait plus de femmes dans la société civile pour qu'elles accompagnent les changements de mentalité, la lutte contre les violences basées sur le genre. Il faut qu'on ait plus de femmes dans le secteur privé, sur des métiers techniques. Et tout ça, ça va se faire avec l'accompagnement, je dirais, des hommes qui sont aujourd'hui dans ces places de pouvoir-là et qui vont nous emmener avec eux.
Avant d'arriver, peux me permettre... comme je m'occupe de beaucoup de jeunes, avant d'arriver à ce niveau-là, c'est à la base que ça doit commencer. Si on ne leur donne pas les outils, moi j'étais au lycée ce matin de Yopougon avec mes 4390 élèves, si on ne leur met pas les outils, si elles ne savent pas qu'elles peuvent aller plus loin, oser, croire en leurs rêves, qu'elles ont autour d'elles que la couturière ou marketing et communication, qu'elles ont l'impression que c'est que le summum ou ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, que si tu fais un selfie, tu deviens milliardaire. Si c'est cette image-là qu'on donne, moi, je suis désolée, elles n'iront pas plus haut. Mais si nos médias montrent la réussite, montre ce qui est possible, montre, je ne sais pas, on a un film qui s'en va à Hollywood, personne n'est au courant. C'est pas normal qu'elles peuvent faire du cinéma, qu'elles peuvent faire tout ça. Non, on ne le leur dit pas. Donc, elle prend l'exemple sur ce qu'elle a à côté, la fille. Donc, avant d'arriver aux politiques et tout ça, il y a d'abord l'éducation.
L'éducation, la formation, le coaching,
des modèles, mais je veux dire, avant d'arriver pour s'occuper du sommet, il faut qu'on commence à la base. Il y a une école d'excellence qui vient d'ouvrir pour en maternelle. Je pense que si elle se multiplie à Bobo, je crois, si ce genre d'école d'excellence se multiplie dès le bas âge, vous verrez le résultat. J'espère qu'on sera encore de ce monde.
Mais je pense qu'au tout début de l'émission, on parlait d'éducation, on parlait de culture, on parlait de tradition. Et on voit de toute façon les choses s'améliorer.
Alors on va partir sur cette note positive en disant les choses vont s'améliorer, que les choses vont dans le bon sens.
J'espère être encore de ce monde.
On l'espère tous.
Voyons.
Nous arrivons malheureusement au terme de cette émission.
Déjà. Hein.
Merci mesdames d'avoir accepté de venir en débattre.
Merci.
Et bon courage. On essaiera d'être à la hauteur.
Le débat africain s'est terminé pour aujourd'hui. Dans un instant, une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale.